Je ne sais plus à quel moment j'ai capitulé. Peut-être le jour où j'ai compris combien l'écriture, mon écriture, était liée à elle.
J'étais une enfant très belle et ça m'a coûté cher.
J'ai demandé à ses frères et sœurs de me parler d'elle, de me raconter.
Tu termineras sur une note positive, ton roman.
J'ai demandé à ma sœur de récupérer dans sa cave les lettres, les écrits, les dessins. J'ai cherché, fouillé, gratté, déterré, exhumé.
Maman ?
J'ai reposé les mêmes questions
Grand-mère
et d'autres
Lucille,
encore.
Elle s'est suicidée, en quelque sorte.
Et puis, comme des dizaines d'auteurs avant moi, j'ai essayé d'écrire ma mère, d'écrire Lucille. Rien ne s'oppose à la nuit.
Rien ne s'oppose à la nuit, de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. Deuxième épisode.
Liane, ma grand-mère, était une formidable conteuse. Lorsque je pense à elle, outre son légendaire grand écart et ses nombreux exploits sportifs, je la revois assise dans sa cuisine, emmitouflée dans un invraisemblable pyjama de laine rouge tricoté maison, tel un lutin facétieux ou un farfadet d'intérieur, racontant pour la centième fois la même histoire, l'œil brillant et le rire chantant.
Vous savez, ma reine chérie, à 22 ans, j'ai rompu mes fiançailles après que ma mère m'a expliqué, à quelques jours de la date fatidique, en quoi consistait mon futur rôle d'épouse. J'ignorais à peu près tout du sexe, comme bon nombre de jeunes filles de mon âge et de mon milieu. J'avais accepté, quelques mois plus tôt, de me fiancer avec un jeune homme de bonne famille. Il correspondait à l'idée que je pouvais me faire d'un bon mari. Je me réjouissais déjà de devenir une dame. De là à m'allonger nue auprès de cet homme et supporter qu'il pratiquât à mon endroit les choses tardivement évoquées par ma mère, il y avait un grand pas. À y réfléchir, il n'en était pas question. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré votre grand-père.
Dans la cuisine de la maison de Pierremont, où Liane et Georges, mes grands-parents, ont vécu des années 70 jusqu'à la fin de leur vie, à l'intérieur des portes d'un vaste placard qui a longtemps servi de passe-plat, étaient inscrites les dates de naissance et de mort, le cas échéant, de tous leurs descendants. Lucille, ma mère, était la troisième d'une famille de 9 enfants. À l'heure où j'écris ces lignes, elle aurait 63 ans. Personne désormais ne pourra compléter cette liste. N'y figure ni la date de la mort de Liane, novembre 2007, ni celle de Lucille, quelques semaines plus tard, le 25 janvier 2008. N'y figureront pas non plus les enfants à venir. Georges, 6 septembre 1917, 2000.
Georges, 6 septembre 1917.
7 décembre 1919.
Liane.
Lisbeth,
19 juillet 1944.
Barthélémy, 15 novembre 1945. Lucille,
17 novembre 1946.
Antonin, 10 mai 1948.
Jean-Marc, 7 juillet 1948.
7 juillet 1948.
Milo,
1960.
8 août 1950.
Justine, 18 mars 1952.
Justine,
Violette, 6 novembre 1954.
Tom,
Violette,
10 juillet 1954.
Tom, 10 juillet 1962. La dernière fois que je suis allée chez Violette, la plus jeune sœur de Lucille, nous avons fouillé dans sa cave. Dans des enveloppes remplies de vieilles photos,
regarde,
classées par enfant,
c'est Jean-Marc.
Nous avons découvert un cliché de Jean-Marc, l'enfant martyr, le frère adopté de ma mère. Une photo prise peu de temps après son arrivée dans la famille, soit peu de temps après la mort d'Antonin. Jean-Marc regarde l'objectif. Ses bras sont maigres. Son ventre paraît gonflé et ressemble à celui des enfants mal nourris. Ses cheveux sont rasés. L'inquiétude se lit dans son regard. C'est un enfant qui a peur. Nous avons regardé la photo en silence, impressionnés par l'infinie tristesse qui s'en dégageait.
Hiver 1954-1955.
appartement de la rue de Maubeuge. D'un geste brusque, Jean-Marc se protège la tête comme sous la menace invisible d'un coup. Liane s'avance vers lui et déplie son bras enroulé autour de son crâne. Elle libère le visage de l'enfant et caresse sa joue. Lucille, elle, n'aime pas Jean-Marc. Elle ne l'aime pas comme elle aime Lisbeth ou Barthélémy, comme elle a aimé Antonin, sans y penser. Lucille se sent coupable de se tenir à distance. Elle l'observe comme un corps extérieur, dissemblable. Elle a tant de mal à le toucher. Elle ne veut pas être à côté de lui à table, ni dans la voiture, ni dans le métro. Jean-Marc est bizarre. Il parle une autre langue, se tient d'une manière différente. Lucille n'aime pas Jean-Marc, mais elle s'est habituée à lui. Longtemps, le dimanche matin a été consacré au câlin. Dans la chaleur des draps, par tranche de 20 minutes et par groupe de deux, Lisbeth et Barthélémy, Lucille et Antonin, Milo et Justine, les enfants s'installaient tour à tour dans le lit de Liane et Georges, leur petit corps collé contre celui de leurs parents. Mais après la mort d'Antonin, au retour des vacances, le rituel a cessé. Chaque jour, la mort d'Antonin se rappelle à Georges de manière insidieuse. Il s'est laissé envahir par une sourde rancœur, dont il refuse d'admettre la victoire. Ce soir-là, Georges regarde dans le vide depuis plusieurs minutes, étranger au bruit qui l'entoure. Lisbeth, inquiète, rejoint sa mère.
C'est pas papa qui est là.
Comment ça ?
C'est un homme qui a mis un masque qui ressemble à papa. Mais j'en suis sûre, c'est pas lui.
Oh, venez dans mes bras, ma reine.
Georges observe ses enfants et ce petit garçon qu'il a fait venir parmi eux, aussi brun que les autres sont blonds.
J'ai épousé une femme dont la principale volonté est de mettre au monde et d'élever des enfants. Beaucoup d'enfants. Je ne suis pas de ceux qui pinaillent, qui tergiversent, qui mégotent. Les petits bras, les mesquins, les frileux. Je n'ai pas assez d'argent et alors j'en trouverai. Pas assez de place. Eh bien, je pousserai les murs et je fabriquerai des lits en forme de placard. La vie n'a qu'à se plier à mes désirs. Mes désirs sont immenses. L'espace est rempli de bruit, de cris, de disputes. J'ai besoin de ce nombre, de ce foisonnement.
Il en allait de même pour les femmes, même s'il n'en aimait qu'une. Jusqu'à présent, aucune ne lui avait résisté, et il avait encore tant de corps à découvrir. Mais au fond, et voilà sans doute ce à quoi Georges pense ce soir-là, le regard perdu entre les lames du parquet. Où qu'il se trouve, dans les bras des femmes, au centre des longues tablées qui réunissaient ses amis, au volant de la voiture dans laquelle il prenait les chemins de traverse, ses enfants serrés à l'arrière, où qu'il se trouve, oui, au fond, il était seul.
Regardez, là, il
n'a pas... Été 1955. Chaque soir, lorsque la plage est vide, Lucille et Barthélémy retournent aux agrès et passent le sable au peigne fin. Les pièces restent sous la surface, juste au-dessous, à peine enfoncées dans le sable. Il suffit de ratisser doucement, avec les mains ou à l'aide d'un petit râteau. Toute la journée, les estivants ont grimpé aux espaliers, se sont suspendus par les pieds, ont défié le ciel sur les balançoires et semé leurs richesses.
Barthélémy, regarde, mon butin de la semaine, 15 francs. Et moi, regarde, je suis riche comme Crésus. Je t'invite chez le glacier le plus chic de nos ans.
t'auras assez.
T'inquiète.
Bonsoir.
Bonsoir. Deux bananas split, s'il vous plaît.
Vous avez assez d'argent? Et vos parents, ils savent où vous êtes?
Lucille sourit à la serveuse de son sourire publicitaire, la tête légèrement penchée sur le côté, les mains posées à plat sur ses jambes, avec cet air sage qu'elle contrefait à merveille. Et la serveuse repart, rassurée. Lucille trépigne maintenant d'impatience. Ils sont là tous les deux, comme des grands, loin de l'agitation qui envahit la maison à ses heures de retour de plage, loin des maillots mouillés et ensablés, abandonnés sur le carrelage de la salle de bain, loin du va-et-vient de la douche et des disputes pour savoir à qui revient la tâche d'étendre les serviettes. Quand tout à coup surgit Jean-Marc.
Merde, voilà la charnière.
Maman vous cherche. Elle s'inquiète.
Tu veux la même chose?
Oui. Je veux bien.
Mademoiselle, s'il vous plaît, la même chose pour le jeune homme.
Je t'ai vu nager aujourd'hui. Tu vas vite.
Je pourrais faire de la compétition.
Tu deviendras champion du monde et ta mère te verra dans le journal avec ton beau maillot de bain. Elle se frottera les yeux et puis elle sera folle de rage.
Et surtout, tu deviendras très riche. Riche comme Crésus.
Imagine ta photo à la une avec des muscles énormes. Et puis ta mère qui tremble de peur à l'idée que tu viennes te venger.
À l'automne, il semble à Lucille que les choses, même si elles ne recouvrent pas leur disposition initiale, s'apaisent. Et le ventre de Liane, depuis plusieurs mois, demeure vide. Jean-Marc a trouvé sa place à table et dans la chambre des garçons. Il ne hurle plus au milieu de la nuit et ne baisse plus les yeux quand on lui parle. Jean-Marc est entré dans le cadre, sourit sur les photos. Il s'est fondu dans l'espace comme s'il avait toujours été là. Lucille espère que les choses se prolongeront ainsi. Elle éprouve un besoin étrange de permanence, redoute les départs, les sorties, l'éloignement.
Non, mais Milo,
je t'ai... Il faut que je vous dise quelque chose.
Chut.
Écoutez, votre mère et moi, nous sommes invités à Londres par un de mes clients.
Nous partons pour le week-end.
Ouais.
Oui.
Nous aussi.
Un week-end entier.
Oui, et le week-end se déroulera sous l'entière responsabilité de votre sœur aînée.
Oh. Oh, c'est l'occasion de montrer votre maturité.
Lucille regarde dans le vague, absorbée par les visions d'horreur qu'elle ne peut chasser. Choc, chute, brûlure, concernant tour à tour chacun de ses frères et sœurs, avant de se voir elle-même glisser sous le métro. Tout, et surtout le pire, pourrait arriver. Liane et Georges n'ont pas le droit. Elle sent les larmes couler sur ses joues. Elle a peur. Elle seule a peur. Elle seule sait combien leur existence est soumise aux planches qui cèdent, aux voitures aveugles, aux chutes vertigineuses. La journée du samedi se passe sans encombre, chacun exécutant à la lettre les instructions laissées. Dans la nuit, Violette se met à pleurer. Dans la petite chambre des filles, Lisbeth allume la lumière et la prend dans ses bras pour la bercer. Violette redouble de pleurs, son petit corps soulevé par les sanglots. On prépare un biberon, on chante des chansons, on allume le transistor. Violette hurle de plus belle, inconsolable. Lucille sent la peur enflée en elle. Les cris de Violette résonnent dans sa tête, s'amplifient à chaque seconde. Les cris de Violette contiennent un message que Lucille ne sait pas déchiffrer. Faut-il pleurer avec elle? Pleurer sur ce qui ne sera jamais dit, sur le chagrin des enfants, sur le monde bruyant qui va toujours plus vite, ce monde rempli de dangers où ils peuvent disparaître sans prévenir. Les larmes coulent sur les joues de Lucille, des larmes que personne ne remarque dans l'agitation qui parcourt la fratrie. À 3 heures du matin, épuisée et désemparée, Lisbeth sonne chez les voisins. Les voisins prennent l'enfant chez eux, finissent par la calmer, et lorsque Violette se rendort, il la dépose dans son petit lit.
L'homme que j'aime, dont l'amour se heurte parfois à mes absences, s'est inquiété, il y a quelque temps, de me voir entreprendre ce travail, si peu de temps après la mort de ma mère.
Je sais aujourd'hui,
alors que je ne suis même pas encore à la moitié du vaste chantier dans lequel je me suis empêtrée.
J'ai failli écrire
du vaste merdier dans lequel je me suis foutue. Combien j'ai présumé de mes forces. Je sais aujourd'hui l'état de tension particulier dans lequel me plonge cette aventure. Combien celle-ci me coûte, au sens physique du terme. Sans doute avais-je envie de rendre un hommage à Lucille, de lui offrir un cercueil de papier et un destin de personnage. Mais je sais aussi qu'à travers l'écriture, je cherche l'origine de sa souffrance. C'est à travers ce prisme que j'ai interrogé ses frères et sœurs, dont la douleur, pour certains, fut au moins aussi visible que celle de ma mère. Je les ai interrogés sans jamais poser cette question à laquelle ils ont pourtant répondu. Est-ce que la souffrance était déjà là ? Dans le fichier Word où j'ai retranscrit l'ensemble des entretiens que j'ai menés, la rue de Maubeuge figure comme un thème à part entière. Lucille y a donc vécu entre l'âge de 4 et 14 ans. Comme c'est le cas dans bon nombre de familles, les époques se résument au lieu qui les contient. Encore aujourd'hui, la rue de Maubeuge ne se raconte pas sans sa part de mythologie. Le dévouement de Lisbeth, les frasques de Barthélemy sur la corniche du deuxième étage, le succès des photos de Lucille, les colères retentissantes de Justine, l'appétit exemplaire de Violette, les pique-niques du dimanche, l'immuable sourire de Liane. Derrière la mythologie, il y a la mort d'un enfant et l'arrivée d'un autre.
Une pièce de puzzle
qu'on essaie de faire entrer de force, me dira Violette lors de mes entretiens. Dans des notes que Lucille a écrites sur son enfance à propos de l'arrivée de Jean-Marc, j'ai trouvé cette phrase.
Ainsi, je découvrais confusément, malgré les explications et les dénégations,
que nous étions interchangeables.
Je n'ai jamais pu me convaincre par la suite du contraire, ni dans les rapports amoureux, ni dans les rapports amicaux.
Derrière la mythologie, il y a l'immense fatigue de Liane, son incapacité à s'occuper de Justine après la disparition d'Antonin, une forme d'indistinction propre aux familles nombreuses, les liens d'allégeance, de rivalité, de complicité que nouent en secret les enfants, leurs paroles, leurs fantasmes, cette circulation invisible entre eux qui échappe aux adultes. Derrière la mythologie, il y a Milo, dont on ne raconte pas grand-chose, si ce n'est qu'il est comme l'eau qui dort, lisse et sans remous apparent. Et Barthélemy, qui se retrouve en observation psychiatrique à l'hôpital Necker, pour un motif dont il n'est pas très sûr aujourd'hui.
Et tu sais pourquoi ?
Alors là, probablement parce que j'étais extrêmement turbulent et que je faisais encore pipi au lit. 2 ans après la mort d'Antonin, c'est ma mère, ta grand-mère, Liane, qui me conduit à l'hôpital des enfants malades. Une fois qu'elle m'a installé dans ma petite chambre blanche, elle s'absente, sous prétexte d'acheter des magazines. Elle revient pas. Je me souviens avoir passé plusieurs jours dans une détresse absolue, convaincu d'avoir été abandonné par mes parents. Et ils sont revenus me chercher, alertés par Marie-Noël. Elle était effarée par l'état dans lequel elle m'a trouvé.
Marie-Noël a été la collaboratrice de Georges pendant 20 ans et l'une des plus proches amies de ma famille. Associée à sa vie quotidienne autant qu'à ses mondanités, elle était le témoin privilégié de sa vitalité, mais n'ignorait rien des drames et des désespoirs qui l'ont traversée. C'est elle qui est allée chercher Barthélemy pour le ramener en Ardèche après la mort d'Antonin. C'est elle qui a pris Justine quelque temps chez elle lorsque Liane ne parvenait plus à s'en occuper. Elle aussi que Liane appellera le jour où elle trouvera Jean-Marc mort dans sa chambre.
Ta mère était une enfant mystérieuse. De total mystère.
Sur les conseils des frères et sœurs de ma mère, j'ai passé un long après-midi chez Marie-Noël pour l'interroger.
Conversation avec Marie-Noël, enregistrée dans son salon.
Attends, j'essaie le micro. Essaie le micro. 1, 2, 1, 2. Oui. Ouais, ça tourne. T'es prête?
Oui.
Alors, Marie-Noël, qu'est-ce que t'évoque la rue de Maubeuge?
La première fois que j'ai vu ta grand-mère, elle était enceinte de Justine. Tignasse blonde et ventre incontournable. Je me souviens qu'elle m'a ouvert la porte en mitouflée dans une abominable robe de chambre en tissu des Pyrénées. Il régnait dans tout l'appartement une odeur de pisse que plus personne ne semblait remarquer. Je venais pour rencontrer Georges, ton grand-père. Alors, journaliste à Radio-Cinéma. Je savais par un ami commun qu'il envisageait de créer une agence de publicité. C'est, ensemble, nous avons monté les premiers statuts de l'agence dans le fouillis du KGB qui nous a servi de bureau avant de trouver des locaux.
Comme d'autres, Marie-Noël se souvient du week-end que Liane et Georges ont passé à Londres. Si ce week-end a été évoqué à plusieurs reprises et par des personnes différentes, il ne l'a jamais été sous forme de reproche à l'égard de mes grands-parents. En tout cas, jamais de manière explicite. Comment Liane et Georges, alors qu'ils ont perdu quelques mois plus tôt un enfant de manière accidentelle, peuvent-ils partir si loin en laissant sans surveillance des enfants si jeunes? Cela me sidère. Bien sûr, j'ai aujourd'hui une idée assez floue de ce à quoi peut ressembler le Paris des années 50 et quel peut être le degré de maturité d'une enfant de 11 ans aînée d'une fratrie de 7 enfants. J'examine ces faits de là où je me trouve, avec cette peur contre laquelle je lutte sans cesse qu'il arrive quelque chose à mes enfants, peur qui est plutôt supérieure à la moyenne, je dois l'admettre, et dont je sais qu'elle n'est pas sans lien avec l'histoire de ma famille. Plutôt qu'une inconséquence, je vois dans ce départ une forme de fuite en avant, la preuve de la confiance irréductible et aveugle que Liane et Georges ont encore, à ce moment-là, dans la vie, le couple qu'ils forment, et la famille qu'ils construisent.
C'était « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine de Vigan. Adaptation, Louise Loubrieux. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Deuxième épisode. Avec Elsa Le Poivre, Johanna Nizard et Cécile Gérard, Laurent Lederer, Aurélie Nusillard, Pauline Ziadé, Agathe Le Bourdonnec, Brigitte Le Cordier, Pauline Belle, India R, Marie Daude, Jean-Claude Frissong, Jeanne-Marie Paul. Et les voix de Luce Mouchel, Marianne Épin, Chloé Oliveres, Bernadette Le Sachet, Albert Delpy, Sandy Ouvrier, Thomas Dalle, Félix Pruvot, Sophie Bezard, Ombline de la Tessonnière, Nina, Nel, Lou, Paul et Madeleine. Bruitage, Sophie Bissens, assistée d'Elodie Fiat. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Prise de son, montage et mixage, Catherine Dérété et Martin Delafosse. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan est paru aux éditions Jean-Claude Lattès.